Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus à la Gazette pour cette rencontre. Rencontre organisée par le Chèvrefeuille étoilé, superbe maison d'édition. Et si je mets le Chèvrefeuille étoilé, je vais encore me faire appeler, hein, voilà, par Chèvrefeuille étoilé, cette maison d'édition. Tu veux en dire un mot, non? Nous, je sais qu'on se retrouve le 17 mars avec Caroline Fabre-Rousseau. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un livre qui vient juste de sortir, qui s'appelle « Lettres aux absentes ». Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Manuela Parra, donc qui est poétesse, romancière, graveuse et passeuse de mémoire. Bonsoir Manuela.
Bonsoir.
Et vous n'êtes pas venue seule?
Non.
Là, il y a une belle tablée. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, nous avons un code couleur. Alors, l'Espagne, le rouge. Hein, voilà. Et donc, nous sommes avec Ida Jarocek. Bonjour Ida. Marie-Agnès Salezada, qui est ma collègue de Radio FM+, puisque je suis Nathalie Bouly, je fais les chroniques sur Radio FM+. Et Marie-Agnès présente Jardin d'Isis, une très belle émission poétique, mais pas que. Natacha, dont je ne connais pas le nom, donc c'est Natacha. Et Martine, qui a un nom, Périchou, voilà. Et donc, qui vont avoir la gentillesse et le plaisir aussi, j'espère pour elles, de lire les textes de Manuela, qui sont extraits donc de Lettres aux absentes. Donc je vous l'ai dit, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, il y a une heure de conférence, après il y a un quart d'heure de temps de questions et un quart d'heure de signature. Donc on va essayer de gagner du temps, puisque je pense que le temps de signature va être un peu plus long qu'un quart d'heure, et surtout que nous devons impérativement, par rapport à la Gazette qui accueille quand même toutes ces rencontres gracieusement, hein, faut quand même le dire, la correction d'être partie de la salle à 19h30, tout pile. Eh bien, je pense que beaucoup de gens vous connaissent, Manuela, mais on va quand même un petit peu vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, s'il y en a encore quelques personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes née à Lunel, près de Montpellier, et vous vous définissez comme France-Espagnole. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette double identité, Manuela?
Alors, d'abord, je rectifie, c'est franchou-espagnole. Ah. Donc, déjà...
ça commence bien.
Et en fait, ça renvoie à deux choses que nous, les enfants de l'exil, on connaît bien, à savoir être entre deux cultures, hein, entre deux pays, parfois sur une frontière qui n'est pas très bien recousue. Donc on oscille, on boite un peu. Et puis aussi, ça renvoie à la manière dont nos parents parlaient, un franchou-espagnol, c'est-à-dire qu'ils francisaient des mots espagnols. Et quand on était enfant, nous, on croyait que c'était du français. Voilà. Donc, je crois que là, on est plusieurs hein, dans ce cas. C'est un langage particulier.
Il y a un mot comme ça qui illustrerait ce que vous êtes en train de dire.
Alors, chez moi, on parlait de fréguer. Fréguer, ça vient du terme frégar, faire la vaisselle. Et voilà. Et franchement, j'ai su tard que ce n'était pas français. Hein, je vous le dis franchement. Parce que, comme on savait ce que ça voulait dire, on n'allait pas chercher dans le dictionnaire. Voilà.
Manuela, je vous ai d'abord connue en tant que poète. Oui. Avant de vous connaître en tant que romancière, c'était grâce à la Maison de la Poésie, en partie grâce à Marie-Agnès qui est présente, que je vous ai rencontrée. Comment est-ce que justement cette écriture poétique que vous avez, vous l'appliquez, alors c'est peut-être un mot un peu scolaire, mais comment vous la vivez dans un roman?
Elle vient naturellement. Je ne choisis pas d'écrire de la poésie ou je ne choisis pas d'écrire de la prose, ça vient à moi. Je ne me pose pas cette question.
Parce que quand on vous lit, alors je ne sais pas si certains ont eu la chance, certains ont eu la chance déjà de lire le livre, mais il y a beaucoup de ça. Je trouve que déjà l'écriture en elle-même est une écriture poétique. Donc,
j'écris comme ça.
C'est comme ça.
Voilà.
Voilà, c'est super.
Ça vient tout seul. Enfin, je ne sais pas si. Je ne choisis pas le style.
C'est comme ça.
Oui, quand j'écris, c'est parce que j'ai tellement accumulé de l'émotion par rapport à des faits, par rapport à des lectures, par rapport à des images qui me viennent et les choses se déroulent par elles-mêmes. Alors après, bon, bien entendu, j'aime bien la musicalité de la poésie. Et donc, en fait, souvent, quand j'écris, dans ma tête, je parle. Dans ma tête, je rythme.
mais c'est systématiquement.
C'est ça que je veux dire par la poésie, c'est qu'il y a une écriture rythmée, il y a aussi des fulgurances poétiques, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup des images quand vous décrivez quelque chose qui pourrait être commun. Vous avez une façon de les décrire qui a une espèce de violence poétique, et surtout dans ce livre qui est assez violent dans son propos.
Et c'est un livre qu'on peut lire à voix haute, parce que je l'ai écrit en me le racontant.
Voilà. Manuela, tout votre travail est traversé par la mémoire de l'exil et évidemment la guerre d'Espagne. À quel moment vous avez ressenti la nécessité de transformer cette mémoire en littérature ?
Quand j'ai eu envie de transmettre, une fois que j'ai fait moi-même mon travail de mémoire, parce que j'en avais assez de ne pas comprendre ce qui s'était passé. Et puis, j'étais mise sur mon chemin de l'exil par hasard. Et à un moment donné, quand j'ai fait le tour, que j'ai appris, que j'ai rencontré, que j'ai partagé, j'ai eu besoin de transmettre, et surtout pour réhabiliter nos anciens qui s'étaient battus pour des valeurs que je qualifie d'universelles, de liberté, d'égalité, de fraternité, et qui, pour ça, ont connu la défaite. Et donc j'ai eu envie de montrer ce qu'ils étaient réellement et pas ce que l'on disait d'eux quand ils sont arrivés en France.
Voilà. D'ailleurs, ce travail de mémoire, on va en parler juste après avec les Voix de l'Extrême. Mais juste avant de parler en deux mots des Voix de l'Extrême et de présenter cette association, je voulais aussi relever votre travail de gravure, de graveuse. Parce que vous m'avez dit que vous avez recommencé à un moment la gravure et que ça a été aussi un chemin vers la création.
Oui, oui. Et j'ai choisi, j'ai eu envie de faire de la gravure. Et parce que pour moi, ça illustre bien ce travail de mémoire. Ça veut dire que quand on grave, on marque une empreinte. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le premier travail que j'ai fait, qui est beaucoup plus, qui était ce qu'on appelle une boîte d'artiste, avec des gravures et des poèmes, que j'ai déposé à la Fondation Machado, il s'appelait Empreinte de la mémoire en héritage. Voilà. Et pour moi, j'avais besoin de la graver. C'est aussi quelque chose qui était profond. Je n'ai pas non plus décidé. J'ai fait un stage de gravure et j'ai fait ça.
Et d'ailleurs, dans le précédent livre, qui était Des frontières et des femmes, toujours aux excellentes éditions Chèvrefeuille Étoile, il y avait déjà les gravures dedans.
Oui.
C'est quelque chose qu'on retrouve dans ce travail-là. Dernière question avant de passer au livre et de présenter le livre, Manuela. Évidemment, ce travail de mémoire que vous mettez au service de la littérature, de la poésie, de la gravure, parce que souvent dans vos gravures, il y a aussi ce côté un peu écorché qu'on retrouve. Et vous le mettez bien sûr au service des Voix de l'Extrême. Vous pouvez nous en parler, vous avez deux minutes pour parler des Voix de l'Extrême et surtout du travail. Non, parce que c'est énorme les Voix de l'Extrême, ne serait-ce que la semaine espagnole du mois de septembre, octobre, là voilà. Donc je sais que je vous laisse peu de temps pour en parler.
Donc de dire quoi ? Dire que les Voix de l'Extrême, c'est poésie et culture, sont nées d'un partenariat avec Voces de l'Extrême en Espagne et avec notre ami qui est aussi le parrain Antonio Orihuela, qui anime un mouvement de poésie, lui, plus particulièrement sur la poésie de la conscience critique. Et donc, il est aussi un enfant qui a connu par son grand-père la répression. Et donc, il était à la Fondation Machado et il a été très touché par mon travail de graveuse. Et ce qu'il m'a dit, mais c'est toi que tu fais de la poésie, sans le savoir. Voilà, donc t'es poète, voilà ce qu'il m'a dit. Et donc il a accepté qu'on crée Voix de l'Extrême avec la particularité en France que moi je l'ai élargie à ce qui s'appelle la mémoire, la transmission, mais aussi pour effectivement utiliser ce que nos parents avaient fait, c'est-à-dire la défense de ces valeurs qui portaient quand même sur un objectif de transformation sociale, puisqu'ils mettaient la culture au cœur de leur engagement. Et donc, et qu'on montre ce qu'ils avaient fait, notamment au travers des rencontres franco-espagnoles, et surtout qu'on le mette en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Et parce que c'est ce combat, c'est pas des drapeaux nécessairement, c'est pas que de la mémoire, c'est un combat qui est permanent.
Voilà. Et d'actualité, on dirait.
Et complètement d'actualité. Très, très fort d'actualité. Actuellement, tout à fait.
Les voix de l'extrême, ce sont aussi des anthologies poétiques, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil au public pour en savoir plus justement sur les voix de l'extrême? Une adresse peut-être mail, un site?
Alors, vous pouvez regarder le blog. Donc, je vous donnerai après, là, parce que je l'ai pas en tête. Après, vous pouvez m'écrire. Et on peut aussi en parler tout à l'heure. Voilà. Et puis, j'ai certainement vos coordonnées. Vous pouvez aussi me laisser vos coordonnées téléphoniques et mail, et je vous envoie les éléments. Voilà.
Bien, merci pour ce portrait qui est rapide, hein, mais bon, on va laisser la parole au texte maintenant. Donc, et est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l'envie de l'être aux absentes, même si en lisant les frontières et les femmes, il y avait déjà un avant-goût quand même, hein, de ce rapport à ces femmes. Comment à un moment vous vous êtes dit, ben voilà, ça, ce livre-là, il va être nécessaire?
Ben, c'est pour la cinquième édition des Rencontres, on a rendu hommage à Georges Samprun. Et j'avais pas lu, j'ai lu beaucoup de choses de lui quand j'étais plus jeune, mais je n'avais pas lu Le Grand Voyage. Et d'ailleurs, on a fait une lecture musicale au moment de cette cinquième rencontre sur Le Grand Voyage. Et donc, son travail m'a bouleversée, c'était le premier livre qu'il écrivait, et ça m'a rappelé, il m'a renvoyé des émotions et des images, et j'ai pensé à ces femmes, notamment espagnoles, comme Inès, mais on y reviendra, qui s'étaient engagées dans la résistance en France, qui avaient combattu en Espagne aussi, qui étaient parties dans les camps. Certaines ne sont pas revenues, qui ont résisté dans les camps, qui ont saboté des armes, parce que ces femmes-là, pour elles, la liberté n'avait pas de frontières. Donc, à combattre le nazisme, on le combat où qu'il soit, hein, le fascisme. Et donc, c'est ce qui m'a un peu bouleversée. Et c'est comme ça que la première lettre est venue, la lettre d'Inès. Et surtout, parce que j'étais en colère par rapport à ce que je voyais qui se développait, hein, notamment en Iran, on en parle encore, mais on en parlait déjà, en Afghanistan, etc. Je disais, mais voilà, comment on peut encore supporter avec toute l'histoire que l'on connaît ce qui s'est passé, ce qui se passe. Voilà, donc j'avais envie de transmettre ce que ces femmes avaient vécu pour que peut-être ça puisse réfléchir. Alors c'est modeste comme mais c'est un grain de sable, j'en suis consciente.
Non, mais c'est vraiment ça, et c'est l'objet de ma question suivante. D'ailleurs, c'est dans le livre, il y a des moments très forts. Hein, vous décrivez vraiment la souffrance de ces femmes, l'exil, la torture, la violence. Enfin, on va parler notamment des 13 roses, c'est une histoire que je ne connaissais pas, qui ont quand même été torturées. Enfin, c'est une horreur. Vous nous invitez à comprendre et à ressentir ces expériences. Mmh. Et justement, ma question, c'était comment cette approche que vous avez tellement intime aussi de ces filles, c'est aussi pour nous alerter. C'est nous maintenant et notre responsabilité aujourd'hui de que ça recommence pas.
Mais oui, c'est tout à fait, je l'assume. C'est et donc le livre est né comme ça, par un peu. Et puis après, il y avait aussi quelque chose que Samprun disait. Il disait on mettait la liberté au-dessus de notre vie. Et quand j'ai lu, parce que ces femmes-là, j'ai beaucoup, beaucoup lu sur ces sujets, sur ces femmes enfermées en Espagne et en France, au moment de la deuxième édition des Rencontres franco-espagnoles que nous avions organisées, qui était Femmes espagnoles en résistance, femmes libres et engagées en France. Et donc, là, m'est revenu en lisant Samprun, je me suis dit, mais est-ce que moi, j'aurais été capable de faire ce que ces jeunes on fait, et voilà, c'est toujours une question, et j'ai beaucoup d'admiration, et elles se sont battues pour qu'on soit libre, et nous, on gaspille ce qu'elles ont fait, et donc voilà, j'ai un peu la rage là-dessus.
Le choix de l'épistolaire, il s'est fait tout de suite comme une évidence. Vous nous disiez que vous avez commencé par Inès.
Oui.
Ça a été la première lettre. Et après, tout de suite, le choix stylistique de la forme épistolaire, c'était une évidence.
Oui.
Vous auriez pu faire des portraits, je veux dire. Voilà, c'était pas...
Ben non, parce que c'est un livre qui s'est écrit sur l'émotion.
En prenant cette forme épistolaire de femmes qui se parlent entre elles, de ces femmes à qui je parle et qui me répondent, eh bien, on est beaucoup plus sur le registre de la confidence, de l'intimité. Voilà, elles confient à la fois leur vie, mais elles confient aussi ce qu'elles ressentent et ce qu'elles voient, et leurs doutes, leurs peurs aussi, leur lassitude. Parfois leur révolte, voilà. Donc leur incompréhension, mmh. et cette émotion-là dans le récit, c'est moins facile. Mais bon, j'ai pas choisi de faire le style épistolaire.
Il est venu naturellement.
Voilà, oui,
voilà, comme tout. Voilà,
certains le savent et Ida le sait. Et voilà, donc c'est venu comme ça, une à l'autre, et puis ça a coulé tout seul, quoi.
On va les présenter une à une après. Oui, il y a quand même un, voilà. Donc vous avez bien compris que le livre fait entendre plusieurs voix de femmes, hein, résistantes et déportées. Comment vous les avez choisies, ces femmes ? Je me rappelle d'une chose que vous aviez dit sur les frontières et des femmes, que des fois c'était deux témoignages dont vous avez fait un portrait. Oui. Est-ce que là, déjà ces six femmes, est-ce qu'elles ont existé ? Est-ce qu'il y en a qui sont totalement inventées ? On peut les citer puisqu'on va on va en parler chacune après les autres. Donc il y a Inès, Juliette et Louise qui sont la partie française. Et puis après Mathilde, Antonia et Amparo. Bien sûr il y en a plein d'autres puisque c'est Antonia qui est dans les 13 roses. Ouais. Elles sont 13. Et d'ailleurs quand vous parlez des sentiments, il y a aussi parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que le livre est pesant. Il y a plein de choses extrêmement légères dedans, notamment quand toutes ces jeunes femmes, avant évidemment de vivre le drame qu'elles vont vivre, c'est un jeu. Ça me rappelle La bicyclette bleue. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là il y a longtemps. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il y avait des choses qui étaient très bien racontées sur les filles qui allaient avec leur vélo. Et puis dedans, il y avait quand même des textes, des tracts et plein de choses qui pouvaient les mettre en danger. Mais au début, c'est un jeu pour ces jeunes femmes. Comment vous les avez ? Alors, je repose ma question. Est-ce qu'elles sont toutes réelles ? Et sinon, comment vous les avez inventées, créées ?
Alors, pour la partie française, c'est-à-dire que le fil conducteur de ces femmes, c'est qu'elles ont connu Ravensbrück. Je ne sais pas si elles sont connues, mais moi, j'ai eu envie qu'elles se soient rencontrées. Et donc, elles parlent entre elles. Voilà. Enfin, elles s'envoient des lettres. Et pour ces femmes-là, c'est des typologies. Ça veut dire qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, la typologie de femmes comme Mercedes Núñez Targa, qui était une Espagnole, qui a combattu en Espagne, qui ensuite est arrivée en France par la retirada, un peu plus tard que la retirada, puisqu'avant elle était en prison à Ventas à Madrid. Et puis elle s'est engagée dans la résistance à Carcassonne, elle a été arrêtée et puis elle est partie à Ravensbrück. Voilà, il y a plusieurs types comme ça de personnages, et donc j'ai puisé un peu dans toute la connaissance que j'avais de ces femmes pour sortir un portrait qui est particulier et qui associe des événements, hein, voilà. Et elles nous font partager ce qu'elles ont. Il y a une autre typologie qui sont des femmes qui écrivaient ce qu'elles, qui dessinaient ce qu'elles voyaient dans les camps. Hein. Bon, ben, nous, on a la chance d'avoir les reproductions de Violette Lecoq qui sont au musée de la résistance et de la déportation de Castelnau-le-Lez, qui a, elle, dessiné 36 dessins sur ce qui se passait dans le camp de Ravensbrück. Il y en a d'autres, hein. Il y a Suzanne Emmer, il y a des Polonaises qui ont fait ça et qui risquaient leur vie quand elles ont fait ça. Et puis il y a Louise. Louise représente toutes ces jeunes qui étaient au lycée, notamment on connaît celle de... Il y avait Jacqueline Fleury, il y avait, qui avait 17, 18, 19, 20 ans, ces jeunes qui se sont engagés à faire de la résistance, qui portait des tracts, qui portait des machines à écrire. Il y avait Suzanne Houlès qui elle, bon, je la cite parce qu'elle a existé, elle est dans le livre, qui représente pour moi toutes ces jeunes qui se sont engagées, et comme des jeunes aujourd'hui s'engagent, manifestent aussi dans des pays actuellement, quoi. Voilà. Et du côté plutôt en Espagne. Ce sont des femmes qui... donc on peut dire que toutes elles ont existé, même oui. si c'est un portrait, des portraits qui ont été recomposés. Et par contre, en Espagne, elles ont réellement existé. Ça veut dire qu'Antonia Liera, je la cite, Mathilde Landa, je la cite aussi, et je cite Amparo qui est morte à Toulouse. Hein, voilà, on va revenir sur ces personnages. Et j'ai eu envie que, parce que ces femmes-là, ces six femmes, étaient animées par le même idéal de liberté. Et donc, j'ai eu envie de les faire communiquer par-delà le temps et les frontières. Et puis, après, je termine par ma lettre sur voilà ce qu'on a fait de votre monde, quoi, en guise de conclusion. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Si, tout à fait. C'est, voilà, c'était, je voulais vous donner une idée globale du livre et de comment ça il s'architecturait. On va passer à chaque portrait. On va commencer par Inès. Vous-même, vous avez dit que vous avez commencé par écrire une lettre à Inès. Donc, Inès, elle incarne de nombreuses jeunes femmes, hein, comme vous le dites si bien, espagnoles, comme par exemple Neus Catala. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur Inès ?
Oui, eh bien Inès, elle est dans le camp de Ravensbrück. Je ne vais pas dévoiler puisqu'après on va faire les lectures. Mais donc elle sortira du camp. Inès, elle pourra témoigner au procès et elle fera en sorte que son tortionnaire, qui était un milicien français, soit exécuté. Voilà, et ça a été l'objectif de sa vie. Ces femmes avaient besoin de témoigner. Il y en a certaines Louise, qui incarne les femmes qui se sont réfugiées dans un silence parce que quand elles ne pouvaient pas raconter parce qu'elles étaient confrontées à l'incompréhension et surtout à une question qui était de dire mais pourquoi vous vous êtes revenue parce que ça je l'ai entendu, je l'ai lu. J'ai vraiment eu beaucoup de témoignages parce que moi, c'est pas que des lectures biographiques.
Bien sûr.
C'est aussi des recherches, des discussions, des conversations. Et donc voilà, elle se réfugiait dans le silence pour parce que les gens pourraient pas les croire. D'ailleurs, c'est ce que disait Simone Veil, sa sœur.
C'est ce que disent beaucoup d'ailleurs de rescapés de la Shoah, voilà. C'est qu'on n'en parlait pas en famille.
Oui. Donc c'est la première.
Le premier échange que je propose donc entre Ida, qui va lire la partie de la lettre d'Inès à Manuela, et Manuela lira la réponse.
Lettre d'Inès à Manuela, Ravensbrück, 1943. Par-delà l'espace et le temps, je voudrais te livrer les mots suspendus à mes lèvres. Un écho lointain pour que tu le fasses tien, pour que tu le répandes plus tard. Pour que tu réincarnes mon histoire. Mais comment t'écrire depuis l'inavouable et l'horreur quand je les vis? Chaque jour, au réveil, l'étonnement me saisit, une morsure sur la peau. Mon corps en lambeaux résiste malgré moi aux atrocités de la veille. Il s'arme pour affronter l'assaut des violences annoncées par le jour qui se lève. J'ai beau implorer la mort pour qu'elle efface mes souffrances, elle en décide autrement. Je reste une ombre, aux yeux hagards dans l'enfer du camp. Je ne savais pas, je ne pouvais pas savoir. Même l'intuition ignorait tant de cruauté, tant de souffrance. Un monde à part, livré à l'arrogance de mes yeux, s'ouvre chaque matin, s'ouvre simplement à la vie, à la mort, là où le sang ne coule plus, où l'odeur âcre imbibe l'air que l'on respire, où les nuages noircis par les peaux carbonisées forment la neige noire que l'on reçoit malgré soi. Neige, autrefois d'amour, d'orgueil, de rires et de pleurs, devenue parcelle légère dans le voyage du vent, insensible au balai mortuaire. Aujourd'hui, dans l'enfer du camp, j'ai le sentiment de perdre de vue cette femme que j'étais autrefois, bousculant son sac à main à la recherche de son tube de rouge à lèvres, rouge vif, crémeux comme du beurre, à présent une image devenue trouble. Je la retiens, je la colle à ma pupille et à mon souffle pour rythmer le peu de vie que je garde enfoui depuis ma chien-vie, le pointillé universel entre deux folies obscures.
Lettre de Manuela à Inès, Balaruc le Vieux, 2019, en écho à ta mémoire. Inès, je t'ai rencontrée au hasard de mes lectures et je suis d'un autre temps que le tien. J'imagine nos échanges épistolaires et même si je ne reçois pas tes lettres, je te lis avec mes yeux si peu verts à force de laver ta détresse. Je te ressens onde et résonance. Je chemine dans tes pensées, dans tes souvenirs peut-être. Je réponds à ton ombre. L'image de ta peau tirée me rappelle ton obscurité. Je reçois ton empreinte aussi, celle bien ancrée dans l'horreur qui aurait pu t'emporter. Tu as résisté, Inès, recroquevillée dans ton chalet usé de vie ancienne, secouée par la toux sous l'emprise de la fièvre, le jour qui devait t'emporter en fumée. Tu es restée seule dans la baraque, accrochée à la chance infime de ta maladie quand les tortionnaires sont partis. Tu étais trop faible pour les suivre parmi la colonne des prisonnières, décimées sous les balles des gardiennes cruelles. Dans l'infirmerie, tu te laissais couler dans l'obscurité de ta vie usée. Les alliés sont arrivés et leurs pas hésitaient. Leurs mains hésitaient à enfreindre le miroir de la mort quand ils t'ont regardé. Ils t'ont délivré. Tu étais cellule vacillante comme une flamme. Tu n'as pas pleuré, ni ri, ni crié. Tu t'es crue morte. De l'autre côté, d'une vie hostile, un espoir enfin, la paix.
Vas-y Manuela, tu peux le...
Ce sont des extraits de lettres, ce n'est pas toute la lettre, c'est ce que je voulais dire.
On a choisi voilà, de vous faire ces questions-réponses pour vous donner voilà, une ambiance, ce n'est pas l'intégralité du texte. Merci Ida, merci Manuela. On va parler maintenant de Juliette. Juliette dont on a un tout petit peu parlé puisque c'est Juliette la mutique, la silencieuse, Juliette la dessinatrice. Juliette qui incarne les femmes enfermées dans les camps de Ravensbrück également et qui ont dessiné ce qu'elles voyaient. Vous l'avez abordé, vous en avez parlé un petit peu, mais il y a quelque chose que vous vouliez ajouter sur Juliette ?
Je peux juste rappeler que certaines ont dessiné dans les camps, d'autres ont dessiné après les camps. Mm-hmm. Mais bon, moi j'ai fait le choix de m'appuyer que sur celles qui. Donc je vous ai parlé de certains tableaux qui sont à Castelnau-le-Lez. Pour d'autres, il y en a à Lyon. Voilà, il y a dans le centre de la résistance et la déportation de Lyon, etc., etc. C'était des femmes courageuses parce qu'elles savaient que si elles étaient attrapées, notamment Juliette, qui dans l'histoire que je raconte, était dans une infirmerie et qui assistait aux exactions qui étaient faites. Elle aurait pu se faire tuer, quoi.
Manuela, je vous propose de laisser la parole, la voix à Martine, qui va... vous avez un micro, là, Martine. Voilà, qui va lire la lettre de Manuela à Juliette.
Lettre de Louise à Juliette et à Inès. Paris, 1960. Je ne vous ai peut-être pas rencontrée. Mais fallait-il, Juliette, que je reconnaisse dans ton dessin mon arrivée à Ravensbrück, dans cette salle parmi tant d'autres silhouettes, dans l'odeur de sueur d'un voyage sordide depuis Sarrebruck, un sas d'horreur avant l'horreur. Je retrouve chacun de mes gestes. Étrange sensation dans cet univers glacial où nous pénétrons. Faut-il décrire nos regards inquiets, pressentant ce que nous ne connaissons pas encore? Des temps suspendus à l'attente. La salle où nous nous déshabillons, la douche et son filet d'eau, les habits rayés, bleus et gris, qu'il nous faudra enfiler sur nos jeunes peaux ou sur celles de femmes plus âgées qui hésitent à découvrir leur nudité. Faut-il, dans notre désarroi, révéler notre inquiétude de perdre notre chevelure, puis notre joie quand la tondeuse l'épargnera? Sur l'instant, je me rattache à ce détail comme d'autres détenus à leur ombre. Je les vois passer au loin, poussant des brouettes vers le local surplombé par une grande cheminée. Je ne sais pas encore. Toi, Inès, tu pensais l'habiter, transformé en fumée. Et toi, Juliette, tu savais depuis l'infirmerie combien les brouettes étaient lourdes des corps de femmes, martyrs devenus des bouches inutiles qu'il fallait fermer et brûler. Juliette, tu n'as pas dessiné la suite de mon histoire, ni notre longue marche en rang dans la campagne. La colonne de la mort avance, scandée de tirs au hasard d'humeurs revanchardes. Tu n'as pas dessiné non plus notre fuite dans la forêt et notre périple en liberté. Nous avions 17 ans. Nous étions entrés en résistance, simplement, comme s'il s'agissait d'une évidence au cœur d'une jeunesse enthousiaste. Nous avons résisté. Mais je porte en moi la marque enfouie de l'espoir anéanti par le mal. Un cycle infernal qui questionne encore ce monde aux oscillations incessantes. Je reste, malgré moi, muette au souvenir des barbelés. Je n'oublie pas la sensation de peur, même si la conscience de la mort ne m'obsède plus.
Merci Martine, je vais laisser Manuela répondre.
Non,
c'est Natacha. D'accord.
Qui va répondre.
Lettre de Manuela à Louise. Bala. Lettre de Manuela à Louise. Balaruc le Vieux, 2024. Louise, je sais que tu as imploré l'oubli en muselant ta mémoire par le silence. Dans un ultime effort, j'essaye de respecter ta prière, mais votre histoire me rattrape malgré moi, dans cette salle sombre de la maison du peuple. Je vous découvre dans le documentaire consacré à Suzanne. Vous étiez dans le même lycée. Elle ne sera pas arrêtée. La Gestapo cherchait Alice, son nom d'emprunt dans la résistance. Sur l'écran de cinéma, sa photo me bouleverse. Elle est belle, ses yeux bruns ressemblent à de la braise. Suzanne a 17 ans, l'âge de l'adolescence. Elle a choisi. Elle s'engage à combattre le fascisme. Suzanne Alice poursuivra sa lutte dans la clandestinité, malgré les dangers. Elle n'a pas peur quand elle voyage d'un bout à l'autre du département, transporte des tracts et des journaux. Je frissonne à la lecture des mots qu'elle a posés sur des feuilles volantes, pour plus tard partager son histoire de jeune résistante. Une histoire qui me défie. Louise, Suzanne, qu'aurais-je fait à votre âge? Cette question me hante. Sa réponse reste incertaine parmi toutes les autres questions qu'elle soulève. En rebroussant les pas de votre histoire, j'emprunte les chemins de la mienne et je confonds nos émotions. Vous ravivez mes aïeules ou celles qui auraient pu l'être. Celles incarcérées dans la prison de Ventas à Madrid, en Espagne. Du haut de leur jeunesse, leur ivresse était la vôtre. Louise, pouvons-nous faire de l'oubli notre seule mémoire ? Pouvons-nous effacer vos sacrifices? Accepter de cheminer au cœur de nouvelles injustices, là où la raison vacille et nous fait renoncer à notre liberté.
Merci Natacha, et c'était bien normalement à Manuela de répondre puisque nous étions sur le portrait de Juliette et que là nous avons été un petit peu trop vite et nous avons fait la réponse de Louise. Il y avait une partie où Juliette répondait, donc c'était la voix de Manuela, et donc là, ce que vient de lire Natacha, c'est le portrait de Louise. Donc Louise, qui est une représentation de toutes ces jeunes filles qui se sont engagées donc très jeunes, dont vous parliez quand on a présenté le livre, notamment Suzanne Oulès, Jacqueline Fleury, que vous avez déjà évoqué. Qu'est-ce que vous vouliez mettre sur dans Louise, justement, c'est toutes ces jeunes femmes, je sais que c'est aussi des femmes que vous avez rencontrées et vous vouliez leur rendre un hommage.
Je suis désolée. Hein.
Elle est très troublée parce que j'étais dans une avance et que là, voilà, comme les deux textes étaient de Martine, ça a un peu troublé notre voilà. Manuela. Mais on va tout remettre bien, ne vous inquiétez pas.
Donc, en fait, pour moi, Louise, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la jeunesse, c'est l'enthousiasme, c'est ces gamines qui...
qui partent au combat sans parfois mesurer l'incidence que ça peut avoir dans un monde infâme, quoi. Et c'est ces jeunes aujourd'hui, c'est nos petits-enfants qui manifestent aujourd'hui dans les rues et qui sont, qui ont un idéal et qui portent un idéal. Et donc voilà. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai écrit Louise, à un moment donné, j'ai arrêté d'écrire et j'avais pas fini. J'ai été invitée à une inauguration à Balaruc-les-Bains, puisque j'habite Balaruc-le-Vieux. Et à cette inauguration-là, en fait, on faisait le portrait d'une dame qui était élue à Balaruc, et là, j'ai appris qu'elle était résistante, avec qui j'avais travaillé pendant une dizaine d'années. Je ne savais pas qu'elle avait été résistante. Et donc là, il y avait un film sur sa vie. Et là, j'apprends que Suzanne, c'est Suzanne Oulès, donc, qui est citée dans le livre, parce que ses enfants, j'ai eu envie, ils ont dit, c'est super que tu le fasses. Et donc, et Suzanne était dans le même lycée que les gamines de Montpellier qui sont parties, elles aussi, qui ont été arrêtées aux Aubes, là-bas, et qui sont parties à Ravensbrück. Elle n'a pas été arrêtée parce que, en fait, c'était son nom de code que la Gestapo recherchait. Donc, mais elle a continué, malgré ce, elle a continué à résister. Voilà.
Et pour avoir le plaisir de réentendre Martine, alors donc vous avez entendu la réponse de Louise au lieu d'entendre la réponse de Juliette, mais je voudrais quand même, Martine, que vous nous lisiez le texte, donc qui est le texte que Louise adresse à Juliette et à Inès. Alors c'était là, c'est parce qu'on en a sauté un autre alors. Voilà, on a tout compris. Donc vous avez tout. Donc je vous propose de partir en Espagne. On va quitter la France. Hein, on va passer la frontière. Oui. Frontière et les femmes.
Voilà. Voilà. Hein.
Désolée. C'est pas grave. Donc en Espagne, on va d'abord faire la rencontre d'Antonia. Et Antonia, là aussi, il y a un quiproquo avec Antonia. Hein, c'est parce qu'elle s'est à un moment appelée... Il y a une mauvaise reprise de son nom. Et Antonia est devenue Antonio, ce qui l'a sauvée pendant un court moment, de cette histoire des 13 roses. Peut-être nous en dire quand même quelques mots, parce que c'était une page absolument folle de l'histoire de la guerre d'Espagne, que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire. Il y a 54 condamnés dedans. Il y a 14 jeunes filles qui n'auraient pas dû être condamnées ce jour-là, et même pas être en procès, puisqu'elles étaient mineures.
Alors, c'est une histoire... En fait, les 13 roses, c'est dans le monde, et notamment en Espagne, le symbole de la répression franquiste. Donc, en fait, elles n'étaient pas 13. C'était 57 résistants qui, lorsque les troupes nationalistes sont rentrées à Madrid, ont été arrêtées. Les cadres des partis politiques étaient partis en exil, et on a dit à ces jeunes il faut essayer de soulever le peuple de Madrid contre l'arrivée des nationalistes. Bien entendu, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient rien, et donc ils ont été arrêtés et mis en prison à la Ventas. Et il y a eu ces jeunes étaient en prison, dont la plupart étaient mineurs, ce qui explique qu'ils ont été jugés par un tribunal militaire comme étant des terroristes. Et donc, ces jeunes étaient dans la prison lorsqu'il y a eu un attentat de résistants espagnols contre un général. Cet attentat a tué ce général et sa fille. Et donc, pour mater la résistance de Madrid, ils ont décidé, Franco a décidé, parce que c'est lui qui décide de tout, de donner un exemple. Et donc, ils ont pioché dans la prison de Ventas 57 jeunes. Donc, il y avait la prison des femmes, puis il y avait la prison des hommes. Et dans ces 57 jeunes, il y avait 15 jeunes filles. Il y en a une qui, elle, a écopé de 12 ans de prison et un jour, qui s'appelle Julia, qu'on retrouve dans le livre, et qui porte sa culpabilité parce qu'elle a fait comme les autres. Elle n'a pas plus ni moins fait. Il y a eu aussi une gamine qui avait 13 ans et qui a été mise dans un orphelinat et qui a disparu. Et puis, il y avait eu ces 14 qui ont été condamnés à mort. Donc, 9 étaient mineurs. Et je vais peut-être raconter puis je terminerai.
La lettre d'Antonia donc
à Louise. Alors elle parle à Louise et c'est à ce moment-là dans le livre où je donne, si vous voulez, je remets une relation entre l'Espagne et la France. Lettre d'Antonia à Louise, Madrid 1939. Par-delà les frontières et le temps. Je te parle depuis mes 18 ans, depuis la prison de Ventas à Madrid, depuis ma paillasse, qui ressemblera plus tard peut-être à la tienne, depuis mon regard sur le monde. Je suis la 14e, celle que l'on ne nommera pas, ni par des noms de place, ni par les 13 jets d'eau de la fontaine madrilène. Je ne serai pas non plus l'ombre du témoignage de la répression franquiste. Ni la preuve morte, ni l'horreur personnifiée que l'on brandira plus tard pour dénoncer l'injustice. Seules les 13 roses seront citées et commémorées. Je suis Antonia. L'erreur de la liste des 14 jeunes filles condamnées à mort au cours du même procès. Je suis le A d'Antonia, devenu un O d'Antonio, que les gardiennes n'appelleront pas dans la cellule des mineurs. Je revois le jour de l'appel. Chaque nom est lu par des yeux ordinaires, articulés par une bouche anonyme. J'attends sagement mon tour, dans ce monde irréel où la folie absolue devient la justice. Sur l'ordre d'exécution, les noms de famille des condamnés sont listés par ordre de sentence. Au procès, le mien est trépassé entre celui d'Anita et de Victoria. Je n'ai pas été appelée. M'ont-ils ajouté à la fin de la liste ? Je retiens mon souffle. Mes jambes tremblent. Je disparais dans la masse que forment les cœurs des prisonnières. Un rempart silencieux. Celles appelées s'avancent quand résonnent leur nom et leur prénom. L'émotion m'étrangle. J'attends toujours mon tour. La liste est close. Les gardiennes sortent de la cellule avec celle désignée. Demain, elles seront fusillées.
Merci Manuela. Je vous propose de rester avec Antonia en lisant la lettre que vous leur adressez à ces 14 roses.
Lettre de Manuela aux 14 roses, Balaruc le Vieux, 2024. J'arpente votre histoire. Le chemin est difficile pour vous faire revivre depuis le temps le silence imposé par la répression, puis par la transition en Espagne. Antonia, je te découvre au hasard des pages jaunies d'un livre d'occasion, 15 lignes laconiques écrites par un écrivain espagnol. Torres Liera Antonia, 18 ans, militait dans les jeunesses socialistes unifiées depuis octobre 1936 et à la fin de la guerre s'engagea dans le secteur de Chamartín de las Rosas. Elle fut la rose numéro 14. Elle ne fut pas fusillée car ils confondirent son nom dans l'ordre d'exécution, Antonio, au lieu d'Antonia, même si ceci ne lui sauva pas la vie. Elle fut fusillée le 19 février 1940. Vous étiez dans la prison de Ventas et peu d'entre vous se connaissent. Un hasard, rien de plus. Une pioche parmi tant de femmes incarcérées. Je ne peux m'échapper de la liste de vos noms, de l'acte d'accusation de rébellion, de votre condamnation à mort par un conseil de guerre. J'imagine vos poitrines rouges sang tachées d'amapolas en rafale, la cadence du bruit sec, du coup de grâce contre vos tempes. Celui d'Anna l'a réduite au silence. Elle s'est effondrée à terre, encore vivante, en criant à son garde avant l'ultime otage. Est-ce que à mi me mantan, moi on ne me tue pas. Dans la douceur de l'automne, mes doigts glissent sur les lignes des mots formés dans leur ultime lettre, retrouvée dans les archives de la prison de Ventas, celle de Blancas à son fils, Ton père et moi allons mourir avec fierté. N'oublie jamais tes parents. Et celle de Julia connaît ça à sa mère. Il me tue innocente. Mais je meurs comme doit mourir une innocente. Que mon nom ne s'efface pas de l'histoire. Ce matin-là, le vent soufflait. L'onde de la mort se répandait. Elle se propagera durant 36 années.
Merci Manuela. On va continuer avec Mathilde. Mathilde, elle, c'est un autre registre. C'est une femme intellectuelle, renommée, engagée, élevée dans des principes d'enseignement libre et laïque. C'est une humanitaire. Elle fait des études. Elle est issue d'une famille d'intellectuels. Elle a connu Machado, elle a connu Juan Ramón Jiménez. Avant de donner les micros pour entendre sa voix, peut-être vous avez envie d'ajouter quelque chose sur Mathilde.
Oui, c'est une femme extraordinaire. Donc, elle était présidente du Secours Rouge et aussi faisait partie donc de comme tu l'as dit, hein, du mouvement des intellectuels qui se battaient, hein, au niveau international. Elle a aussi organisé dans le cadre du Secours Rouge elle montait des hôpitaux dans des villes, dans des villages. Elle était présente au moment du massacre à Malaga. Et donc, c'était une femme qui avait beaucoup de poigne. Quand elle a été incarcérée à la prison de Ventas, Mathilde a imposé que l'on organise un bureau des clémences. Ça veut dire qu'elle rédigeait, parce que bon, à la prison, il y avait énormément de femmes et certaines n'avaient rien fait. C'était des dénonciations, elles allaient être fusillées. C'était quelque chose d'horrible, quoi. Et donc, elle rédigeait des clémences. Et elle était tellement aimée et idéalisée, on l'appelait la sainte laïque. Et donc, comme il y avait eu le niveau international, le monde international qui s'était révolté contre le massacre des 13 roses, ils ne voulaient pas de nouveau en faire une martyre. Et donc, ils ont commué sa peine de mort en peine de prison. Et elle, ils l'ont envoyée à la prison de Sancal, dans les îles de Majorque. Et là, elle a vécu quelque chose de terrible, mais on va nous le raconter.
Lettre de Mathilde à Manuela. Ma mémoire. Madrid, 1939. Voir dans la nuit. Ils m'ont enfermée dans un cachot obscur. J'ai fermé les yeux pour leur résister. Sur l'écran de mes paupières closes, j'ai vu défiler des mots affectueux et je les ai relus. Que faire d'autre dans ces temps incertains quand on est emmuré dans le noir et le silence? J'ai retrouvé, blotties dans ma mémoire, les lettres délicates que j'avais autrefois reçues d'Antonio Machado et de Juan Ramón Jiménez. J'ai senti la joie m'inonder. J'ai récité, comme une prière, le poème que Miguel Hernandez m'avait dédié. Il me donnait du courage. J'ai relu patiemment les mots de tendresse et d'amitié des miens et ceux d'amour enroulés sur mes lèvres ouvertes. Je leur ai envoyé des baisers dans le noir. J'ai vu alors un monde s'animer, hors de ma peur, hors du temps, hors de ces murs lugubres. Peu à peu, des images du temps de la puissance et des espérances sont apparues sur l'écran noir de mes pensées. Je me vois, insistant sur la progression de la barbarie fasciste, elle s'attaquait à Federico Garcia Lorca. J'étais assise parmi Tristan Tzara, André Malraux, Robert Capa, Ernest Hemingway, Pablo Neruda, Antonio Machado, Miguel Hernandez, Rafael Alberti. Je les revois tous, un à un, dans la salle bondée d'énergie et d'enthousiasme, prêt à bondir sur l'ennemi. À présent, je ris quand ils m'ont extirpé du trou noir où il m'avait projeté pendant plusieurs mois, je souriais. Mon sourire les a pétrifiés et ils ne m'ont pas torturé. Par la lucarne de ma nouvelle cellule griffée de barreaux, j'ai pu recueillir la lumière dans mes mains ouvertes. Je l'ai bu et j'ai ouvert les yeux. J'ai retrouvé leur monde hostile, froid, si lointain de celui que j'avais patiemment sculpté de beauté, de mains reliées, d'espérance solidaire. En silence, j'ai détourné la tête et j'ai pleuré.
Lettre de Manuela à Mathilde, Balaruc le Vieux, 2025. Je progresse dans ton histoire écrite en espagnol. Je suffoque à l'idée du chantage horrible qu'ils exercent. Tu acceptes le baptême où ils suppriment le lait aux enfants des prisonnières. Tu l'écris à ta fille. Lettre de Mathilde à sa fille. Ils disent que c'est aujourd'hui le grand jour. Doña Barbara et d'autres dames de l'Action catholique ainsi que les bonnes sœurs doivent être en train de savourer leur victoire. La douleur dans la poitrine m'empêche de penser, Carmencilla. Mais je ne crois pas que l'huile camphrée puisse soulager ma souffrance, car c'est une autre douleur, beaucoup plus profonde, qui m'oppresse. Je ne peux pas regarder sans pleurer les visages de ces enfants qu'on menace de priver de lait si je ne me baptise pas, si je ne me convertis pas. Tu sais, Carmencilla, à quel point je suis soucieuse des enfants, les plus exposés avec leur petit cœur sensible aux caprices des adultes. Je ne peux pas l'accepter. Ce serait comme si je me prostituais. Ah, ces enfants, peut-être mon attitude est-elle un caprice. Je suis de trop. J'espère que tu continueras à m'aimer et à te souvenir de moi, quoi que l'on raconte, et malgré ce que je me propose de faire. Que toi, ma fille, ma toute petite, et ces pauvres enfants me pardonniez.
Merci beaucoup, Ida. Merci, Marianne.
Merci.
Pour l'intensité que vous donnez à ce texte. Déjà, quand on les lit, c'est... Quand on les entend dire avec vos voix, c'est encore plus fort. Excuse-moi, Manuela, mais...
Oui.
Voilà. Oui. Ça doit être étrange pour vous d'écouter aussi
oui,
ces textes.
Mais c'est un livre qui se lit à voix haute, je pense. Et en fait, il faut savoir que elle s'est suicidée ce jour-là. Elle est montée à l'infirmerie, soi-disant pour prendre de l'huile camphrée, pour se purger. Et quand elle était en haut, elle s'est jetée par la fenêtre. Et quand elle est arrivée en bas, elle n'était pas tout à fait morte. Et ils l'ont quand même baptisée. Et voilà,
Et peut-être je peux finir par ce paragraphe, Manuela, puisque c'était après.
Excuse-moi.
Et tu t'es envolée pour leur échapper en vain. Je t'imagine ce 24 septembre, le jour de la fête de Notre-Dame de la Merci. Toi, clouée au sol, le curé et les religieuses agenouillées sur ta presque dépouille. Leurs regards échangés pour sceller leur connivence et annoncer que tu réclamais le baptême d'un geste imperceptible qu'ils avaient supposé. J'imagine ta douleur à la pensée de renier l'essence même de ton existence. Alors, je comprends ton geste.
Merci.
On va finir avec Amparo. On n'aura pas trop de temps, donc je vous laisse gérer, Manuela, les quelques minutes que nous avons pour parler d'Amparo et pour lire Amparo.
Amparo, c'est une femme qui m'a toujours passionnée, on dira, parce que c'est une des trois femmes qui ont fondé le mouvement des Mujeres Libres en Espagne en 1936. Il faut savoir qu'en Espagne, les femmes en 1932 avaient le droit de vote. Voilà. Et donc, elle était doctoresse. Ce n'était pas la première doctoresse en Espagne. Et elle a passé sa vie à soigner des femmes et des enfants. Donc, elle partageait cette passion des enfants. Et donc, elle est partie, elle a traversé... Elle était aussi la directrice du ministère de Federica Montseny, dont le petit-fils habite à Montpellier. première femme ministre en Espagne et du dernier gouvernement républicain. Et donc, elle est arrivée, elle a traversé la frontière et elle est restée en France. Il faut savoir qu'elle a aussi vécu cet exil comme un enfermement. Sa famille l'a bannie. Voilà. Hein, donc, elle n'a pas pu retourner en Espagne. Donc, voilà. Donc, je vais vous lire un extrait de la lettre d'Amparo à toutes les femmes emprisonnées, qui est le dernier portrait du livre, et punie, assassinée sous la répression en Espagne. Donc, elle habitait Toulouse. Toulouse, 1950. Recluse en exil par-delà la frontière, nous ne savions pas votre souffrance, celle qui à chaque instant faisait pénétrer la mort dans votre vie. Mais comment soupçonner l'acharnement des vainqueurs sur vos corps criblés de balles pour faire taire nos idées ? Ils nous avaient déjà tout pris en nous plongeant dans la défaite. Leur fallait-il encore une terreur sanglante après la guerre ? Une terreur bénie par le clergé pour mater le peuple résistant, résigné ou apeuré ? Parfois, les lettres traversaient les frontières. Aucune allusion à la répression n'y était mentionnée. Alors, comment pouvons-nous imaginer votre calvaire dans les prisons ? Pour nous, vous étiez à l'abri dans votre vie quand nous survivions à l'étranger dans la misère. Et vous, avez-vous su notre fuite à pied sous les bombes, froide explosion sur les routes encombrées, jonchées de corps éventrés ? On ne savait pas encore que le temps et le vent effaceraient leurs traces. Nous ne retournerions pas en Espagne. Nous sommes devenus des clandestines, dissimulant les signes dénonciateurs d'être indésirables, qualificatifs devenant notre nom des indésirables, en nous ôtant le statut de circuler, de travailler dans ce pays étranger où notre vie, au contour imprécis, tissait un futur improbable. Alors, penser à vous qui étiez resté au pays devenait impossible. J'ai su bien plus tard ce que vous aviez enduré. Mes pensées vont vers toi, Mathilde, dans la prison de Palma, où pour échapper au dilemme que le clergé t'imposera, tu te suicideras. Mathilde, comme toi, j'ai voulu briser les mondes parallèles et j'ai cru le bonheur de l'humanité possible. J'ai aimé soutenir les regards égarés dans l'horreur, leur offrir un havre de paix, recoudre leurs blessures profondes, celles du déchirement, de l'exil, des souffrances accumulées. J'ai voulu protéger les enfants, leur fragile existence, leurs yeux inquiets face à la brutalité du monde, de notre monde qui les faisait mourir sous le poids de l'injustice et de l'inégalité. Ces engagements, Mathilde, nous reliaient malgré nos divergences politiques. Et nous n'avons pas uni nos forces pour résister. Mathilde, que de puissance dans ton geste. Mathilde, femme du monde, je m'incline devant ton courage. J'ai honte. Ma fuite en exil m'a sauvé la vie. On va arrêter là.
Merci. Je pense que vous voulez finir avec un dernier texte.
Si j'ai le temps.
Eh bien, on va le prendre. Il y aura une question en moins. Hein, alors voilà.
Lettre de Manuela Amparo, Balaruc le Vieux, 2025. En intruse, je m'immisce dans tes vers que tu dédies à Mathilde. Ils me parviennent depuis les pages de la revue Mujeres Libres, en écho mortuaire qui résonne à la lecture de ton poème sur la mort de l'enfant en temps de guerre. Il trouble ma vision et l'émotion me submerge. La balle courait. Elle demandait au vent : à quel endroit puis-je me planter pour faire souffrir ? L'enfant jouait. Il rêvait à ses jeux. Mais qu'était la guerre avec ces hommes cruels ? La balle courait. Où ira mon fer, traître et assassin ? Pour être le plus percutant. L'enfant rêvait. Il jouait avec ses rêves. Mais qu'était la guerre si elle était si loin ? Bourgeon précoce, coupé et râpé, fruits et bois, volés dans les jardins, les yeux fermés, les lèvres desséchées, les bras tendus. L'enfant est mort. Un point d'interrogation se balance dans le vent. Qui ont-ils tué ? Un poète ? Un guerrier ? Un athlète célèbre ? Un homme vertueux, cruel, fougueux, compatissant, féroce, égoïste, humain, lâche, sincère ? Mais qu'était la guerre si elle était si loin ? À la lecture du poème d'Amparo, je reste sans voix. Merci.
Je pense que c'était important que vous le lisiez.
Merci.
Nous avons un temps d'échange. On est tous un peu, je pense, sous le choc de la force de ces mots, de ce qui est écrit, ce qui est dit, la façon dont ça a été dit. Et je remercie vraiment Ida, Marie-Agnès.
Oui, moi aussi, je les remercie.
Martine et Natacha. Vous pouvez prolonger l'écoute. Merci. Merci pour elle. Excusez-moi. Est disponible en podcast une émission de 50 minutes donc, que j'ai enregistrée la semaine dernière avec Manuela et qui donne aussi qui donne de la suite à ce que vous venez d'entendre ce soir. Et je crois que Marie-Agnès, tu reçois bientôt Manuela pour parler du côté poésie, donc sur les antennes de Radio FM+. Je vous laisse la parole, alors je vais être vraiment méchante, 9 minutes, si vous avez quelques questions. Voilà, avec plaisir, je vous tends le micro. Je sens qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Il faut peut-être aller les chercher, je ne sais pas. Manuela, il y a des choses, il y a déjà des gens qui ont lu, qui vous font des retours.
Oui.
Justement
ben,
sur.
Je ne sais pas, peut-être que Domi, elle peut en parler. Non.
Qui l'a lu déjà ? Qui l'a lu ? Vous voulez en dire un mot ? Si je donne le micro, par contre. Hein, voilà, oui. Il faut qu'il y ait un micro qui soit suffisamment long. Et moi, je donne le mien à Manuela, mais ce n'est pas moi qui vais répondre, c'est évidemment Manuela. On va peut-être vous avancer.
Oui, juste. Oui, j'ai eu le grand plaisir et le privilège de pouvoir le lire il y a quelque temps. Et je voulais juste faire une appréciation. C'est un livre qui est pour le cœur et pour les yeux. Pour le cœur, pour la poésie et pour les yeux, parce que dedans, il y a de très belles gravures. Et c'est vraiment un très beau livre, très émotionnel. Très beau, on l'a entendu ce soir, et je confirme. Voilà. Pour le cœur et pour les yeux.
Merci, merci. Après, il faut quand même savoir que toutes ces histoires sont vraies, quoi. Je veux dire, j'ai retraduit des histoires que je n'ai pratiquement pas inventées, quoi. Et c'est ça qui est quand même incroyable. C'est que finalement, la terreur, par exemple, la terreur que ces femmes ont connue, que ce soit dans les camps à Ravensbrück ou que ce soit dans les prisons sous la répression en Espagne, c'est celle qu'actuellement des femmes connaissent en Iran, actuellement, quoi. Voilà, en Iran. Hein. Viol, j'ai pas parlé, mais par exemple, dans la prison de Ventas, il y avait des miliciens, hein. Elles étaient les prisons, étaient combles. Je n'ai pas cité non plus le nombre les volumes de répression. Une femme sur quatre était assassinée, qui était dans les prisons. Certaines, en fait, les miliciens venaient la nuit prendre une jeune qui n'avait pas encore été jugée, ou une femme qui n'avait pas, et puis s'amuser, puis la tuer. Voilà, et elle avait disparu. Comme en Iran, voilà. Et si vous voulez, et ça, Mathilde Landa l'a fait arrêter. Elle avait une telle personnalité que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont envoyée de la prison de Venta à Majorque. Parce que ça, c'est des pratiques qu'elle a fait arrêter par sa puissance. C'est vrai que son frère avait fait ses études à l'enseignement catholique à Badajoz avec un homme qui ensuite est devenu prêtre sous Franco. Donc, c'est vrai qu'elle a eu aussi la possibilité, elle a eu un appui pour ne pas être exécutée. Donc, elle a utilisé pour faire ça dans les prisons, quoi. Et voilà, donc, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand on nous parle de tout ce qui se passe, quoi. Les femmes sont, et les enfants. Dans le livre, je cite aussi l'histoire d'un gamin qui est vrai. Qui a été tué dans des conditions atroces, donc je veux que vous dormiez ce soir. Mais en fait, pour faire parler sa mère, ils ont pris le gamin de 3 ans, et comme il s'appelait Liberté, ils l'ont tué. Voilà. Donc, mais c'est des pratiques à la fois de terreur rouge et de terreur blanche.
Hein, puisqu'il y a bien un pays, Manuela, en ce moment, où il y a un petit garçon de 5 ans qui est toujours en tôle.
Voilà.
Pour trouver les parents, donc ça existe. Voilà, il faut être vigilante.
Oui, oui, il faut être vigilante.
Très vigilante.
Quand on parle de ça, on parle aussi d'aujourd'hui. Mmh. Hein, c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler.
Eh bien, je vais vous laisser, Manuela, rien que pour vous, à la table qui est là, et auprès duquel est Anouk. Je vous remercie encore pour cette belle rencontre. Je remercie Chèvrefeuille étoilée de me faire confiance à chaque fois pour l'animation de ces rencontres que je fais.
Et on va
avec énormément de plaisir. Je laisse peut-être le dernier mot à Manuela pour vous inviter donc à la rejoindre. Et merci encore à Martine, à Natacha, à Marie-Agnès et à Ina. Et vas-y.
Merci à tous, toutes et tous d'avoir été là ce soir. Moi, je voulais remercier en effet Nathalie pour sa fidélité et pour son enthousiasme à chaque fois qu'il y a des parutions à Chèvrefeuille étoilée pour pouvoir animer les rencontres littéraires. Je vous remercie, mesdames, d'avoir prêté vos voix à ces femmes résistantes. Je suis encore un petit peu, moi, sans voix, parce que j'ai pourtant entendu les textes plusieurs fois. Je les ai lus et je les ai entendus. Et à chaque fois, j'ai des frissons qui me passent un peu partout. Voilà, merci, Manuela, de nous offrir ta plume profonde et poétique. Et qui fait aussi, je trouve, qui nous questionne sur nos consciences et notre humanité. Voilà. Je voulais juste faire un petit rappel, enfin pas un rappel, en fait, une petite annonce sur ce qui va se passer prochainement au Gazette Café. Je ne sais pas s'ils ont fait encore l'annonce pour le 7 mars. Est-ce que vous savez ce qui se passe le 7 mars ici ?
Moi, je sais.
Le 7 mars, il y a le premier salon du livre organisé par Juliette, l'animatrice culturelle du Gazette Café, donc sur le thème du voyage. Il y aura plusieurs éditeurs qui seront là, dont Chèvrefeuille étoilée. Et il y a aussi un partenariat avec la librairie La Géosphère, qui sera également présente. Et sur le stand de La Géosphère, entre autres avec plein d'auteurs, il y aura aussi Manuela, qui sera là l'après-midi, et Caroline Fabre-Rousseau, pour son nouvel ouvrage qui va paraître aux éditions donc Chèvrefeuille étoilée le 6 mars, donc la veille, sur Alma Carlin, qui est une globe-trotteuse, exploratrice, romancière, traductrice, austro-slovène, qui en 1927 a fait toute seule un voyage autour du monde pendant 8 ans. Donc Caroline, elle sera là ce jour-là, et puis elle sera aussi à la médiathèque Émile Zola l'après-midi à 15h30. Et donc, je voulais aussi vous annoncer que, retenez dans vos agendas, le 17 mars à la Gazette, au Gazette Café, animé par Nathalie Bouly, il y aura aussi une rencontre avec Caroline Fabre-Rousseau. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Manuela, j'ai oublié que tu seras le 10 mars à la, à la Maison pour tous, l'Escoutaïr, après Darren, voilà, pour une rencontre dans le cadre d'une manifestation sur la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, je crois que c'est bon.
Et puis ces rendez-vous, bien sûr, on peut les trouver sur le site Facebook.
Voilà. Je vous invite en fait à prendre un marque-page des éditions, comme ça vous avez tous les réseaux dessus. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux et regarder sur notre site internet les différents événements au cours de l'année. Merci beaucoup, bonne soirée.